15e chapitre. François II, politique de Louis XI, Ligue du bien public, Pierre Landais, tailleur de Vitré, remue l'Europe. Les fiancés d'Anne de Bretagne, bataille de Saint-Aubin du Cormier, mort de François II, dernier duc de Bretagne. Les rapports continuels qui, depuis plus d'un siècle, n'avaient cessé d'exister entre l'aristocratie bretonne et la chevalerie française, les usurpations continuelles des rois de France et surtout la faiblesse des ducs de Bretagne, dont la plupart des conseillers s'étaient laissés gagner par l'or des princes capétiens, toutes ces causes réunies menaçaient le duché d'une entière soumission à la mort d'Arthur de Richemont. À partir de cette époque, la Bretagne cesse d'exercer aucune influence sur la politique européenne. Elle n'est plus appelée, comme dans le passé, à faire pencher la balance du côté de ses alliés. La rivalité de la France et de l'Angleterre, leur lutte continuelle avait été jusque-là la sauvegarde de l'indépendance armoricaine. Délivrés de la crainte des Anglais, grâce au courage et au dévouement des Bretons, les rois capétiens n'eurent d'autre pensée que de ravir à la Bretagne son antique indépendance. Les annales de ce duché n'offrent plus jusqu'à son annexion que le tableau d'une lutte d'un demi-siècle entre la puissante monarchie française et le petit royaume fondé par les Bretons à l'extrémité de la Gaule, près de 100 ans avant le baptême de Clovis. François II, comte d'Étampes, neveu d'Arthur et fils de Richard de Bretagne, succéda à son oncle dont il était l'héritier. Ce prince, comme si prévoyant les malheurs de l'avenir, il eût désiré léguer à l'histoire un dernier exemple d'indépendance bretonne, ne voulut prêter au roi de France qu'un hommage simple, et il le rendit l'épée au côté, sans consentir à la quitter. « Pauvre prince était, et disait eux, dit la marche, du reste beau, valeureux et de grande apparence. Malheureusement, le fond ne répondait pas à la forme. Il eût fallu à François II une fermeté inébranlable, et tout son règne ne fut qu'une suite de témérités et de faiblesses. Cependant, toutes les fois qu'il fut bien conseillé, il prit et fit prendre par les États des mesures utiles. Sous lui, le pays étendit ses relations jusque dans le Levant. Des traités de commerce furent conclus avec l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et les villes hanséatiques. Vitré et Rennes eurent une manufacture, l'une de soieries, l'autre de tapisseries. Les côtes et les ports furent fortifiés contre les Anglais. Un ennemi redoutable devait bientôt l'attaquer. Charles VII était mort du chagrin que lui avait causé la révolte de son fils aîné, et celui-ci était monté sur le trône sous le nom de Louis XI. C'était un prince qui possédait ce qui constitue, à certaines époques, le talent du politique, et si la nature ne lui avait pas départi cette élévation de caractère, ce besoin des grandes choses qui font les Louis XIV et les Napoléons, la passion du pouvoir n'était pas moins profonde chez le compère d'Olivier le Dain que chez le grand roi ou chez le vainqueur des pyramides et d'Austerlitz. Dès les premiers jours de son avènement, Louis XI s'était proposé d'abattre toute seigneurie assez puissante pour résister à son autorité. Et comme, parmi les petits États indépendants de l'ancienne Gaule, le plus considérable et le plus à craindre était la Bretagne, il résolut de réunir à sa couronne un territoire qui formait un royaume dans un royaume et dont les princes avaient plus d'une fois vaincu les rois de France. Une circonstance favorisait ses plans. Le connétable de Richemont, au milieu de la terreur que les Anglais avaient répandue dans la plupart des provinces, avait décidé Charles VII à établir des troupes permanentes à l'exemple des ducs de Bretagne. Maître de disposer à son gré d'une armée contre laquelle ne pouvait lutter la milice féodale, le roi était désormais en mesure d'écraser les grands vassaux à la première révolte. Louis XI était trop habile pour ne pas profiter de cette institution nouvelle. Peu de temps après la mort de son père, Louis avait fait un voyage en Bretagne, cachant, sous le prétexte d'un pèlerinage à l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon, un vif désir de s'assurer par lui-même de l'état des choses dans le duché. Trouvant le pays presque complètement dégarni de troupes, il n'attendit plus qu'un motif plausible pour attaquer les Bretons. Des démêlés survenus entre le duc et l'évêque de Nantes lui fournirent bientôt l'occasion de faire marcher les troupes vers le Poitou. Mais François sut gagner du temps et parvint à former contre le roi la Ligue du bien public, dans laquelle entrèrent le duc de Berry, le duc de Bourbon et le comte de Charolais. Louis se hâta de conclure une trêve avec le duc de Bourbon et se retourna aussitôt contre son impétueux cousin Charles le Téméraire. Les deux armées se rencontrèrent à Montlhéry. La victoire resta indécise. Toutefois, pendant la nuit, le roi battit en retraite sur Corbeil. Au lieu de marcher droit sur Paris, le comte de Charolais s'arrêta à Étampes, où les Bretons le rejoignirent 2 jours après l'affaire. Les traités de Conflans et de Saint-Maur donnèrent satisfaction au prince coalisé en 1465. Louis était loin d'avoir abandonné ses projets sur la Bretagne. Aussi François II s'efforça-t-il de rechercher l'appui de plusieurs puissances étrangères. Quand il crut pouvoir compter sur le duc de Bourgogne, ainsi que sur Édouard IV d'Angleterre et sur le Danemark, au lieu d'attendre son ennemi, il entra en Normandie. Louis XI le força à se retirer et envahit lui-même la Bretagne. Mais à l'approche de Charles le Téméraire, il signa la paix d'Ancenis le 17 septembre 1468. Un peu plus tard, Charles ayant été tué sous les murs de Nancy, François II chercha à négocier à la cour d'Angleterre un traité d'alliance offensive et défensive contre la France. Mais le roi surprit la correspondance et l'affaire ne réussit pas. La mort de Louis XI prolongea de quelques années l'agonie du petit royaume qui, depuis 2 siècles, défendait son indépendance contre les Français, les Normands et les Anglais. À peine délivrée des dangers de la guerre étrangère, la Bretagne faillit retomber dans la guerre civile. Le duc, depuis plusieurs années, s'était placé en quelque sorte sous la tutelle d'un de ses ministres. Fils d'un tailleur de Vitré, Pierre Landais était parvenu à capter si bien l'affection de son souverain que François II l'avait élevé à la dignité de chancelier. La noblesse, indignée d'un pareil choix, se plaignit, mais ce fut inutilement, et Landais ne craignit pas d'accuser le chancelier Chauvin, chez qui il rencontrait de la résistance, d'avoir pris part à la machination qui avait livré à Louis XI la correspondance du duc avec l'Angleterre. François II fit arrêter le vertueux Chauvin et laissa son ministre signer l'ordre de saisir ses biens. Le trésorier fut enfermé au château d'Ennebon et, comme les États réunis à Vannes par crainte de Landais n'osèrent juger la cause, il en conçut une telle douleur qu'il expira au bout de 2 jours en gémissant sur le sort de ses enfants. Les seigneurs se révoltèrent aussitôt et ne pouvant réussir à renverser Landais, ils proposèrent au roi de France de le reconnaître comme souverain à la mort de leur duc, à la condition seule de les aider à se débarrasser du ministre qu'ils abhorraient. François II conçut de vives inquiétudes, mais Landais le rassura en promettant un allié. Voici quel était son plan. Louis XI avait confié la régence du royaume à sa fille Anne de Beaujeu, au préjudice du duc d'Orléans. La main de la duchesse Anne, héritière du duché, serait le prix de l'appui accordé à François II par le duc d'Orléans. En attendant, il réussit à faire envahir la France par les Autrichiens et il envoya l'armée du duc assiéger les seigneurs coalisés dans Ancenis. Mais des deux côtés, les soldats, en apercevant l'hermine de leur enseigne commune, sentirent leur haine s'évanouir et tous ensemble s'avancèrent sur Nantes pour châtier le ministre prévaricateur. Peu de temps après, Landais fut pendu au milieu des cris d'enthousiasme du peuple. Sur ces entrefaites, le duc d'Orléans et les seigneurs, ses partisans, s'étaient réfugiés en Bretagne. Sur leur refus de revenir à la cour, où les mandait la régente, une armée française fut dirigée contre l'Armorique. Beaucoup de villes furent prises. Le roi et madame de Beaujeu vinrent eux-mêmes encourager les troupes par leur présence. Toute la noblesse bretonne était sous les armes lorsque Louis de la Trémouille, qui, à 27 ans, passait pour le premier capitaine de son siècle, arriva avec 12 000 hommes et se porta sur Saint-Aubin du Cormier. Une bataille terrible fut livrée en cet endroit. Les Bretons perdirent 6 000 hommes et le duc d'Orléans fut fait prisonnier. Le lendemain, une partie de l'armée française, tout enflée de ses succès, se présenta sous les murs de Rennes et somma les habitants de se rendre sans condition, sous peine d'être passés au fil de l'épée. Les Rennois furent admirables de courage. Réunis dans la cathédrale, les notables de la cité s'engagèrent à défendre jusqu'à la fin les droits de leur souverain et l'indépendance du pays. Trois députés furent chargés de porter cette résolution au général français. L'un d'eux, Jacques Bouchard, greffier du Parlement, excita l'admiration des Français par la mâle énergie de son langage en face de tant de calamités et par cette noble fermeté de l'homme libre et du citoyen qui, comme le fait observer M. de Courson, est le plus beau et le plus rare des héroïsmes. « Ne pensez pas, dit le généreux Breton, que vous soyez déjà seigneur de la Bretagne et que vous ayez aussi facilement le surplus. Vous devez premièrement considérer que votre roi n'a aucun droit sur cette duché. Vous savez comment il emprunte du roi Philippe de Valois à Crécy en 1346, quand lui, qui accompagnait était de 100 000 hommes, fut défait par 10 000 Anglais, et aussi du roi Jean près Poitiers, où les Français, par leur fierté, perdirent leur roi. Vous autres Français ferez assez d'entreprises de guerre et de bataille tant qu'il vous plaira, mais celui qui s'enfin règne là-dessus donne les victoires. Ne vous en attribuez pas la gloire, c'est à lui qu'elle appartient. Le roi ne demandait pour obtenir la paix que la ville de Fougères. Or, avez-vous maintenant Fougères et demandez encore Rennes. Seigneur, je vous fais à savoir que, en cette bonne ville de Rennes, il y a 40 000 hommes dont les 20 000 sont de telle résistance que, moyennant la grâce de Dieu, si le seigneur de la Trémouille et son armée viennent la siéger, autant y gagneraient que devant Vannes. Nous ne craignons le roi de France, ne toute puissance. Partons, retournez au seigneur de la Trémouille, et lui faites part de la joyeuse réponse que nous avons faite, car de nous n'aurez autre chose pour le présent. » Cette réponse si fière et en même temps si simple produisit une vive impression sur la Trémouille, et il n'osa assiéger Rennes. Dinan et Saint-Malo lui ouvrirent leurs portes. Charles VIII n'ayant plus, depuis la prise du duc d'Orléans, aucun prétexte pour guerroyer en Bretagne, délibéra, assure-t-on, s'il ne s'emparerait pas tout de suite de ce duché. Le chancelier de France, Guillaume de Rochefort, soutint que le roi très chrétien ne devait pas abuser des droits de la victoire pour saisir les états d'un voisin, et Charles VIII, convaincu par ses raisons, ou craignant peut-être de pousser à bout les sangliers de Bretagne, ainsi que le comte de Foix appelait alors les Bretons, se résolut enfin à retirer ses troupes. « Comme roi, dit-il orgueilleusement aux envoyés du duc, je puis faire justice ou grâce, mais en prince chrétien, je me contente de vaincre. » Je remets la vengeance à Dieu et je pardonne au duc de Bretagne, mon vassal. La paix fut conclue au Verger, en Anjou, le 20 août 1468. Le roi, qui en dictait les conditions, réserva tous ses droits sur le duché, si le duc mourait sans héritier mâle. Le duc s'engagea à renvoyer de la cour tous les ennemis du prince, à ne marier ses filles qu'à son gré et à lui livrer comme nantissement les villes de Fougères, de Saint-Malo, de Dinan et de Saint-Aubin du Cormier. Trois jours après avoir signé la déchéance de son pays, François II mourut de douleur à Coiron, près de Nantes, à l'âge de 53 ans.